là pour les deux plats du jour.
Je peux goûter comme ça?
Oui, 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 bien sûr.
The menu, please.
Oh, tu goûtes ça.
Mmh. Je tire mon chapeau à un légume voyageur qui nous vient de très loin. Du Pérou.
À la fin de vos haricots, c'est mon début à moi qui commence. Pas besoin d'haricots, pas besoin de cassoulet, pas besoin de fèves, pas besoin de n'importe quoi pour recommencer. Votre fin des haricots, c'est mon début à moi.
La fin des haricots.
Viens à la fin des haricots.
Les haricots le soir, ça fait plaisir jusqu'à minuit.
Le faillot, celui qui nous court sur le haricot.
La fin des haricots, et je vous laisse deviner comment on épelle fin sur le plateau dont on va déguster. Bonjour à toutes et tous. 5 fruits et légumes par jour, vous vous souvenez? Eh bien, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation lançait en janvier dernier une autre recommandation. Moins de viande, plus des légumineuses, il était temps. Et parmi ces légumineuses, on s'intéresse aujourd'hui à une sacrée source de protéines, de vitamines et de fibres. Faillot, flageolets, coco, lingots, bienvenue chez les haricots. Pour nous aider à s'y retrouver dans la grande famille des haricots secs, pour nous raconter le voyage au long cours de cette graine, l'érudit, l'irremplaçable. Xavier Mathias, bonjour.
Bonjour.
Un habitué de l'émission, on peut le dire.
Oui, c'est toujours un plaisir.
Vous avez pris votre abonnement. Et nous, c'est un vrai bonheur de vous recevoir régulièrement, cher Xavier. C'est notre poète du légume qui nous a apporté sa collection personnelle de haricots. Et on peut dire que c'est impressionnant. On peut dire que le haricot, c'est un dada hein, pour vous.
Ah oui, parce que ça nous ramène vraiment au rôle du potager. C'est-à-dire que c'est nourricier. On est là pour manger. Alors là, maintenant, on a les potagers plaisir et c'est très, très bien. Néanmoins, on voit que les légumes qui nous nourrissent disparaissent des potagers. Par légumes qui nous nourrissent, le chou qu'on a évoqué il n'y a pas si longtemps.
Absolument.
L'oignon aussi. Tout, de toute façon, ces variétés, ces espèces qu'on repère facilement, puisqu'il y en a une par village.
C'est
à
ça.
Peu près.
On va en parler, justement. Et puis, on va militer pour la culture et évidemment la consommation des haricots et des haricots sous leur forme sèche. On va voir ça. Je rappelle que vous êtes maraîcher pratiquant la permaculture à Chédigny en Indre-et-Loire et le temps du potager. C'est votre dernier livre chez Flammarion, indispensable pour ceux qui veulent cultiver de façon écologique un jardin nourricier à la maison. Vous nous avez apporté votre collection de haricots. On va la décliner dans un instant. Il y a un autre ami de l'émission qui est déjà venu cuisiner les légumes secs sur ce plateau. C'est Gilles Davaux. Bonjour.
Bonjour.
Gilles Davaux, D-A-V-E-A-U. Ça, c'est pour le site internet gildavaux.com. Vous avez été restaurateur et traiteur bio. Vous travaillez désormais auprès des particuliers, des cantines, de la restauration collective pour les convertir à une alimentation plus végétale, plus vertueuse, plus durable, plus végétarienne. Et vous avez participé aussi à un ouvrage collectif qu'on aime beaucoup et qui nous a servi notamment de base pour faire cette émission. Savez-vous goûter les légumes secs? Vous étiez 4 auteurs et c'est aux presses de l'École des hautes études en santé publique. Elvira Masson, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous en pincez pour un petit haricot.
Il est rouge.
Oui.
Il est très commun et très apprécié au Japon, surtout en sucré.
J'ai ma petite idée.
Xavier?
Ah oui, c'est le azuki.
Ouais. Ouais. Et vous ne le cultivez pas encore, Xavier, alors que maintenant, il pousse bien en France.
Voilà, on peut faire des essais. Pour l'instant, je crois qu'il y a quand même encore un petit peu une barrière climatique. Dans le sud de la France, a priori, il donne quand même des meilleurs résultats.
Et même en Alsace, finalement.
On va voir ce qui se passe. N'en dites pas trop. Mais le azuki made in France, c'est une petite curiosité qu'on va vous faire découvrir. Cordon bleu et toque verte. De temps en temps, il voit rouge. C'est Arnaud Daguin, bonjour.
Bonjour à tous.
Un coup de lame aujourd'hui?
Un coup de hache aspiré, j'espère inspirer.
Très bon. Les haricots, ouais. Nous, on préfère les haricots sans liaison et sans fil. En régie, la fine équipe dont va déguster Hélène Bizio, Julien Chabassu, Nadia Chougui, Djoubaka pour la programmation musicale. Vos questions, vos réactions, vos expériences culinaires du haricot à la maison. Un petit mail sur onvadéguster@radiofrance.com. Un petit tweet avec le mot-clé on va déguster. Allez, on entre dans le vif du sujet. C'est le début des haricots.
Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, on va déguster.
J'ouvre le grand dictionnaire de cuisine d'Alexandre Dumas à la lettre H et je lis la chose suivante. On mange les haricots de 3 manières et à 3 époques de leur développement. Avant leur maturité, on les mange avec la gousse, on les appelle alors haricots verts. Un peu avant la maturité, on en mange les graines encore tendres, on les nomme alors flageolets. Enfin, on fait une grande consommation de leurs graines desséchées et qui, de quelque part qu'elles viennent, oulala, prennent impudemment le nom de haricots de Soissons. Comme je suis du département de l'Aisne, précise-t-il, c'est à moi de faire valoir mes compatriotes. Il y a un peu de chauvinisme, hein, haricots de Soissons. Qu'est-ce que vous pensez de cette définition d'Alexandre Dumas?
Eh ben déjà qu'elle est tout à fait juste. On oublie souvent que c'est exactement la même plante, hein, qu'il soit sec, demi-sec ou vert. Alors après, attention, néanmoins, il y a eu des sélections variétales qui ont été faites parce que certaines se prêtent bien à être mangées en vert, d'autres plutôt demi-sec et d'autres qui feraient des téguments très durs, par exemple. On va les faire plutôt en demi-sec, etc.
Donc ça veut dire que si on laissait pousser dans le potager un haricot vert, on n'obtiendrait pas ces gros haricots qui auraient vocation à être séchés?
Non, vraisemblablement, ils font souvent, hein, d'ailleurs, des graines assez petites avec des téguments très très durs. Il y a quand même quelques variétés, hein, qui peuvent se prêter à la récolte 3 stades. Donc je dis pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin, le haricot phénomène à rame se prête à une récolte 3 stades, ce qui est génial quand on part en vacances, pour les gens qui partent en vacances l'été. Voilà, vous le récoltez en vert au début, vous partez en vacances, quand vous revenez, il est sec, mais il est bon.
Il se prête à toutes les consommations.
Ouais, c'est rare.
Et c'est un haricot qu'on retrouve où? Alors, en France?
Oui, bien sûr. Alors là, j'en profite pour faire un petit coup d'éclairage sur nos amis semenciers du Biogerme.
Oui.
Voilà, qui commercialisent ces graines. En plus, le haricot, c'est une graine qui est facile à reproduire, hein. Il suffit juste de distancer un petit peu deux variétés différentes entre elles. Et vous pouvez parfaitement faire vos graines, ce que je vous encourage à faire d'ailleurs.
Eh bien, écoutez, on va s'y mettre à la maison, même si on a un petit balcon. Juste le soisson, en un mot, on peut considérer que c'est un gros gabarit, couleur ivoire, belle tenue à la cuisson. Il serait cultivé depuis le 18e siècle, notamment dans les vignobles Axonais et Champenois, et il était copain avec la vigne, en fait, visiblement, le haricot dans cette région-là.
Alors, mais ça, c'est nous qui avons oublié ça. Merci beaucoup à l'agriculture chimique de synthèse. Mais les haricots sont amis avec tout le monde, en fait, puisque ils fixent l'azote atmosphérique qui restitue au sol. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que le haricot, quand on y pense, c'est pour ça que je l'aime à ce point-là, c'est que il est riche en protéines. Donc, protéines végétales, qu'est-ce qui nous fait du bien à nous, déjà? Mais surtout, il fait le même bien qu'il fait au jardinier, il le fait à la terre.
Il est fertilisant.
Voilà, il fertilise. Vous avez un sol après une culture de haricots qui est plus riche en azote après qu'avant, ce qui est absolument invraisemblable. Ils restaurent et nourrissent le sol, et ils restaurent et nourrissent le jardinier, les jardinières qui travaillent avec, quoi.
Il prend pas beaucoup de place non plus quand il pousse, puisqu'il pousse souvent, la plupart du temps à la verticale.
Voilà.
Ce qui est d'ailleurs une économie de place pour ceux qui ont des petites surfaces à cultiver.
C'est ça. En plus de ça, il a la gentillesse de s'enrouler tout seul.
Il est pas très contrariant.
Ah ouais, non.
Il demande beaucoup d'eau ou pas plus que
non.
Ça.
Non. Alors, c'est toujours pareil. On peut faire gonfler les grains artificiellement en irriguant, voire en surirriguant. Néanmoins, c'est vraiment une plante super sobre. Hein,
l'intérêt de cultiver du haricot, notamment pour fertiliser les sols, Xavier Mathias nous l'a précisé. L'intérêt d'en manger, et ça, c'est le rôle qu'occupe aujourd'hui Gilles Davot. Vous militez également pour le haricot. Comment expliquez-vous, Gilles, que cette petite graine sèche qui fait partie de la famille des légumineuses ait été à ce point clouée au pilori ces dernières décennies? C'est vrai qu'on ne le voit pas trop dans nos assiettes.
Ben en fait, c'est un peu le fardeau des légumes secs d'être considérés comme les aliments du passé, lourds, qui font ballonner.
On peut le dire.
Ouais,
voire et plus donc, qu'affinité.
Et en fait, ben moins on les mange, moins on les digère.
Ah, vous pensez ça?
Ah bah oui, ça c'est dans la flore intestinale, il y a une capacité en fait de traiter ces fibres qui sont au niveau de la peau, qui nous font ballonner et qui va se restaurer peu à peu si on reprend l'habitude d'en manger un petit peu, parce que ça nourrit pas que la terre et les jardiniers, ça pourrait nourrir tout le monde. Et c'est un des enjeux quand on parle de nourrir la planète pour 2050 avec 9 milliards d'habitants, c'est juste se dire sans forcément partir dans des solutions toutes végétales, mais de se dire on va peut-être manger mieux de viande avec des viandes mieux produites et puis refaire une place, et en particulier dans cette famille des légumineuses, à ces légumes secs et ces haricots qui sont culinairement, on va en parler,
oui.
C'est des vrais trésors. On nous en parle beaucoup pour la santé, c'est pas que des protéines, c'est aussi quelque part aussi du légume, parce que c'est très riche en fibres, c'est du féculent complexe de par la présence des fibres, donc c'est de l'énergie qui prévient le grignotage, enfin il y a des vertus.
Et on va voir avec vous tout l'éventail des stratégies culinaires qui peuvent s'appliquer à ce petit légume sec, on en parle dans un instant. Arnaud, vous aviez quelque chose à dire?
Juste...
Je suis sûr que vous allez dire que vous êtes d'accord avec Gilles Davot.
Absolument, et je voudrais juste compléter ça en disant qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque où on mangeait beaucoup de légumineuses, on buvait aussi des vins qui étaient un peu acides, qui n'étaient pas très alcoolisés et qui étaient phénoliques. Il y avait beaucoup de tanins. Et ça aidait bien à la digestion. Et on avait des assaisonnements qui étaient très acides aussi. C'est-à-dire jusqu'au 16e, 17e siècle, on mange beaucoup de verjus, de vinaigre et de choses réduites comme ça, des gastriques, ce qu'on appelait des gastriques. Pourquoi on les appelle des gastriques? Mais parce qu'elles font un boulot gastrique. Et donc, en fait, l'abandon de cette espèce de tonalité acidulée là, dans la cuisine, je pense, a contribué à l'abandon aussi des légumineuses.
Autre époque, autre contexte, effectivement, on les digérait peut-être mieux autrefois, Elvira.
Vous disiez qu'elles étaient riches en, qu'ils étaient riches en protéines, ces haricots, ces protéines sont facilement assimilables, c'est aussi
alors,
simple.
C'est toujours la même chose. Les protéines végétales, elles peuvent être bien assimilées et comparables aux protéines animales à condition qu'elles soient associées. Donc, soit il y a un peu de produits animaux avec qui amènent ce qui manque aux protéines du haricot, soit on les associe avec les céréales. Et classiquement, la grande caractéristique des alimentations du Sud, c'est les riz grains. Mm-hmm. C'est les riz, haricots, les Antillais, les Africains, enfin, et toutes les beaucoup de cultures autour de la planète associent le riz et les grains. Et c'est ce que j'ai fait.
Oui, donc, ben justement. On va en parler parce qu'avant de redonner la parole à Xavier Mathias, qui va évidemment nous éclairer dans cette espèce de maquis historico-botanique du haricot, c'est ça, on s'en mêle les haricots, j'aurais envie de dire. Une petite solution culinaire, ne serait-ce que pour montrer à nos auditeurs qui nous écoutent que c'est pas si compliqué de sortir le haricot de son cadre un petit peu formel dans le répertoire français. Soit c'est le cassoulet, haricot tarbet, ou le lingot de Castelnaudary avec le cassoulet qui est assez carné, protéiné, même si c'est une excellente recette qu'on adore. Parfois même c'est le flageolet avec l'agneau du dimanche. Une petite solution là comme ça, je sais pas.
Bah en fait ce qu'on repère dans le cassoulet ou dans le petit le flageolet avec le mouton, en fait c'est toujours pareil, c'est cette capacité du haricot à porter le goût. Et moi j'invite n'importe qui à prendre un condiment, un peu de viande, un peu de poisson, un fromage, à écraser du haricot à côté et de mélanger les deux. On a 100%, on a développé le goût. Là, j'ai fait une petite sardinade. J'ai écrasé un petit peu de sardine. Là-dedans, il y a 50 à 60% de haricots écrasés. Et à la fin, on a une rillette de sardine. Ah. Et comme on a ce côté onctueux du haricot, on n'a pas besoin d'y mettre de la crème fraîche.
Faites passer, il y a Elvira qui a faim.
Très peu.
Qui a faim de haricot. On va pas la faire 10 fois dans l'émission. La faim de haricot, c'est la faim du haricot, c'est promis. Non, on va s'arrêter là. En tous les cas, on montre que, en partant, alors, de haricots cuits, sachant qu'il y a l'étape. Vous militez pas, j'imagine, pour les haricots en conserve, même si ce sont issus de l'agriculture biologique, si ?
Moi, je trouve que ça, c'est quand même une étape. Quand on parle du très grand public, ceux qui sont aujourd'hui très loin du bio, très loin des producteurs, je pense qu'il y a quand même un truc, c'est de retrouver une place pour le haricot dans l'alimentation de tous les jours. Et peut-être ça se fera simplement en achetant un bocal et de se dire, bah, qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Et donc, que ce soit des petits tapas, des petites salades, des petites écrasées, et puis ben, les genres de choses dans lesquelles je vais vous emmener tout à l'heure, ça va vraiment de l'apéritif au dessert, du sucré salé, enfin, on peut vraiment, vraiment faire
des
choses.
C'est bon, cette sardinade.
Qu'est-ce que c'est bon,
là, vous avez mis un trait d'acidité du citron ?
Ben, un petit peu de citron, quelques fils d'échalotes. Et puis, mais là-dedans, il y a 60%, pratiquement 55 à 60% de mojettes écrasées.
Ah, c'est des mojettes.
Bah, c'est le haricot. Moi, je viens de Vendée, donc je me suis amusé à utiliser le haricot. Mais je suis pas un VRP de la mojette.
Bien sûr.
Ce qu'on fait là, on pourrait le faire avec n'importe quel haricot.
C'est incroyable.
L'onctuosité que ça amène, c'est vraiment, vraiment étonnant, quoi.
Oui. On va évoquer dans un instant, évidemment, cette grande, juste après notre pause musicale, les origines botaniques du haricot, car on va voir que c'est assez complexe, il faut tirer des fils. Toutefois, parlez-nous. Vous m'en avez parlé en préparant cette émission. J'étais assez admiratif de ce système de culture, amérindien, qui s'appelle le milpa, pour montrer toute la valeur culturelle du haricot.
Voilà, c'est difficile de pas l'évoquer, surtout qu'on va le retrouver pratiqué différemment quasiment sur toute la planète. Hein. On l'a aussi au Mali, avec le niébé, etc. Donc l'idée, c'est d'associer en culture une plante qui a besoin de beaucoup d'azote, comme le maïs, par exemple, mais qui a la gentillesse de pousser très verticalement, sur laquelle on va faire s'enrouler un haricot, qui, en échange de ce tuteur bien agréable, va offrir de l'azote au maïs.
Échange de bons procédés.
Voilà, et comme au pied, il faudrait pas que tout ce petit monde dessèche, on met une courge qui va pousser au pied. Et alors après, ce qui est absolument invraisemblable, c'est que d'un point de vue agronomique, ça marche. Mais aussi d'un point de vue nutritionnel, moi je dirais que ça fonctionne, puisqu'on se retrouve avec
une trinité parfaite.
Ah ben, fruits, céréales, légumineuses.
C'est juste parfait. C'est parfait dans le sol, parfait dans notre assiette, tout va bien. Et ça demande du coup aucune béquille chimique.
Ah non.
Oui, ça me faisait penser aux trois sœurs. Vous savez, le petit dieu Cocopelli, là, qui joue de la flûte, le petit dieu bossu, ben, dans sa bosse, il est là, ses trois sœurs, le maïs, le haricot et la courge.
Justement, on, dans le sud-ouest, là, je me tourne un peu du côté d'Arnaud Daguin, on évoque le haricot-maïs.
Le tarbé.
Il est appelé comme ça parce qu'il pousse sur le maïs.
Il pousse sur le maïs depuis très longtemps. Si vous en souvenez, François Agis, mon père, dans les années 80, avait fait une glace en dessert.
André, hein, on le salue d'ailleurs.
Haricot tarbé à la vanille.
Chef de l'Hôtel de France.
Voilà, ça prouve que quand on... Ce qui est bien, c'est quand on fait tremper le haricot, sa peau devient facile à enlever.
Justement, il faut le faire tremper systématiquement.
Alors, s'il est très sec, évidemment.
Pour toutes les variétés.
Le trempage est indispensable, Gilles.
Oui, oui, et puis jeter cet eau de trempage, ou arroser les plantes avec. Hein, c'est-à-dire que ça va drainer un petit peu des éléments qui ne sont pas très digestes au niveau du haricot. Puis surtout, ça le prépare à cuire.
Ah.
On va choquer un peu quand on le met directement, on le trempe et puis après on va le cuire tout doucement. Et
combien
si on avait
temps
du
de trempage
temps,
faut-il
bon.
C'est une nuit.
Les haricots en général c'est la veille si on sait qu'on va en faire le lendemain, mais sinon c'est au moins 2 heures quoi.
Au moins 2 heures.
Ça dépend un peu de leur taille et aussi
oui,
de leur.
Ça peut dépendre aussi.
Plus le haricot trempe, plus il est digeste, c'est ce qu'on voit avec Gilles Davaud. Dans un instant, des recettes signées Gilles Davaud évidemment, et puis surtout le voyage du haricot raconté par Xavier Mathias.
Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, on va déguster.
Où vaille, où va ou n'est-ce le théâtre à vaille à oué. Où vaille, où va ou n'est-ce le théâtre à vaille à oué.
Vaïtéané, Ovaï, avec des petits accents polynésiens, ça c'est un choix qu'on approuve totalement de Djoubaka évidemment. Les haricots sont à l'honneur sur le plateau dont on va déguster, et c'est mérité car de temps en temps on a un peu tendance à les clouer au pilori. Il y a d'ailleurs beaucoup de questions. Non, il y a une question très personnelle d'Elvira Masson.
Oui, pourrais-je avoir la recette de votre sardinade? Oui.
Est-ce
qu'on passe à autre chose tout de suite?
Énormément de succès, vous auriez dû en apporter plus, Gilles, je suis désolé de vous le dire.
Qu'est-ce que c'est bon?
Un petit peu.
Donc on part du principe qu'on a des haricots secs qui sont déjà cuits et de la sardine.
Voilà,
plus quelques condiments.
Et là, j'ai écrasé 2 sardines à la fourchette dans un coin de l'assiette. Dans l'autre coin, j'ai écrasé à peu près 80 grammes de haricots déjà cuits. Mm-hmm. Et puis,
donc,
là-dedans, j'ai mis, j'ai, euh, vraiment ciseler de l'échalote très très finement, un petit peu de jus de citron, j'ai pris de la sardine en boîte.
Et matière grasse ou pas matière grasse?
J'ai utilisé un petit peu d'huile de la boîte. C'était une huile d'olive bio de bonne qualité. Et puis, j'ai mis une petite cuillère à café de crème fraîche.
Ah.
Une cuillère à café. Mais ça, c'est intéressant parce que les rillettes de sardines ou de poissons qu'on voit partout, c'est 50% de crème fraîche
bien
partout.
Sûr. Alors que là, c'est juste pour apporter l'onctuosité. Voilà. Mais donc là, à la limite, on pourrait s'en passer.
Bah, c'est un masquant. Hein. Faut pas oublier que la crème fraîche, c'est un truc qui arrondit. Et là, le haricot, il est juste loyal. C'est-à-dire qu'il laisse passer la saveur qu'on lui a mis.
Ça marche. Une autre petite question, Elvira ?
Oui, une question. Non, plutôt un commentaire d'auditrice, Nathalie. Mm-hmm. Qui me dit que chaque Bonjour, région Nathalie. En France a son haricot. En Ariège, il se cultive le lingot. En Espagne, dans la magnifique région des Asturies, il existe le haricot avec lequel on cuisine la fabada.
Ouais.
Plat paysan, chorizo, fabada. Morcilla, tocino, donc le lard.
Ouais.
C'était le plat de fête que préparait ma grand-mère, que je cuisine encore, miam miam.
Intéressant. Bah tiens, fabada, partons là-dessus, parce que j'imagine qu'il y a une petite étymologie qui a un rapport avec la botanique. Essayons d'y voir un peu plus clair dans cet imbroglio botanique. Le haricot, c'est pas facile. Hein.
Bah oui, surtout qu'il a eu une histoire assez particulière, puisque des haricots, on en cultivait déjà. Donc, haricots, c'est ces petites graines sèches, on va dire. Voilà, on parlait même de... La Quintini parle de fèves de haricots, donc vous voyez, c'est tout ça est quand même étroitement imbriqué. On en cultivait donc en France avant l'introduction d'un haricot qui arrive, lui, d'Amérique centrale et qui est assez magique parce que, oui, déjà, les haricots sont magiques en général, mais celui-là encore plus parce que il a un cycle plus rapide et des rendements bien plus importants que ceux qu'on cultivait initialement sur le vieux continent. Alors, botaniquement, on a deux genres différents. On a Vigna, qui vient du vieux continent, et on a Phaseolus, qui est introduit donc assez tardivement. Hein. C'est au moment des grandes découvertes, donc ça fait haricots, maïs, tomates, piments, etc. Décidément, ces grandes découvertes nous en ont amené beaucoup. Comme d'habitude, le haricot, il est coincé, entre guillemets, en Italie. Les Italiens, toujours bien plus curieux, bien plus ouverts.
Ça arrive souvent en Italie avant la France. Hein.
Ah, très très souvent. Et donc, c'est pour ça qu'il y a autant de variétés d'ailleurs et de traditions du haricot en Italie. Bien plus, enfin, il y en a pas mal en France, mais c'était quand même plus ancien.
On dit que c'est Catherine de Médicis, on lui met décidément beaucoup de choses sur le dos, Catherine de Médicis. Quelle est la part de légende d'info et d'intox? C'est elle qui aurait rapporté à l'occasion de son mariage le haricot dans le Val-de-Loire?
Voilà, on parle aussi de Marguerite de Valois. Plus dans le sud, etc. Alors pourquoi pas aussi des introductions relativement conjointes ou dans l'ignorance les uns des autres, ce qui est aussi tout à fait possible, puisque la France n'est pas un pays unifié comme maintenant. Donc ce qui se passe à 600 km, on n'est pas forcément au courant. Toujours est-il que ce haricot, par contre, vraiment productif, là on se rend très très rapidement compte de son intérêt. Et c'est pas du tout un légume qui va patiner à s'implanter comme certains, la tomate par exemple ou la pomme de terre ont eu du mal à s'implanter. Haricots, non, ça va très très vite, très rapidement.
Ça prend très vite.
Voilà, le bon sens fait qu'on mesure très vite les avantages de cette culture. C'est-à-dire, il y a un détail qu'il faut surtout pas oublier, c'est que ça se conserve. Et nous, bien sûr, avec le transport, la congélation, surgélation, etc., c'est une donnée qu'on a complètement oubliée. La fin des haricots vient de là. C'est que quand il y a plus de haricots, c'est la catastrophe qui est annoncée, puisque c'est la dernière source alimentaire riche, intéressante, qu'on peut conserver. Donc la fin des haricots, c'était pas une blague du tout, hein. C'était très très mauvais signe.
Si on résume, grande famille botanique des Fabacées.
Voilà, c'est
ça. Ensuite, il y a des genres, des espèces, des sous-espèces, des variétés.
Voilà.
Mais il existait un cousin du haricot sous nos latitudes,
voilà.
Avant l'arrivée
et qui a été
du haricot par les conquistadors.
Exactement, qui a été supplanté. D'ailleurs, la Maugette, à l'origine, hein, c'est cet ancien genre moins productif de Vigna et qui a été remplacé par d'autres variétés plus
Et la fève dans tout ça, Xavier?
Alors, la fève, c'est un petit peu compliqué, surtout que c'est très récent, en fait, qu'on s'intéresse à toutes ces histoires de légumes. Les légumes, c'est des trucs populaires. Donc, c'est quand même des dénominations qui sont très vagues, très générales, ou qui concernent plus ou moins tout le monde, etc. Donc, quand un auteur parle de fève, on sait qu'il va parler d'un grain sec de légumineuse. Mais si on n'a pas un descriptif précis, on va pas savoir, ou difficilement, si c'est un haricot, une gesse, une veste, etc. C'est très difficile, en fait. C'est récent.
Quelquefois, l'étymologie nous aide. Au Pays Basque, par exemple, à Tolosa, le petit haricot noir, on l'appelle babaroun. Babaroun, étymologiquement, ça veut dire baba, la fève, aroun, qui vient de loin.
Ah ouais! Mmh. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut regarder aussi comment les mots ont glissé. C'est-à-dire que le mot haricot, par exemple, il vient. En fait, c'est probablement la confusion entre haricot qui vient de haricoter, coupé en ragoût, coupé en petits morceaux, et ayacolt aussi, le mot inca qui désigne le haricot. Et ce serait le mélange des deux qui nous aurait donné ce haricot. Parce qu'on connaissait haricot. Sur le vieux continent, on nous amène un ayacolt, ben voilà, le mélange, la confusion est rapidement faite, d'autant plus que cet ayacolt te prête très bien aux haricots.
En fait. Et faillot alors ? C'est un mot argotique ?
Alors faillot, c'est probablement dérivé de phaséol, hein, les phasioles, les phaséoles, les phasoles, etc.
Faillot, visiblement, ça aurait une origine maritime ? Ceux qui étaient les plus dociles étaient les premiers servis en haricots, qui était la seule matière à disposition. Une fois que toutes les réserves fraîches étaient consommées, il restait plus évidemment que des matières sèches comme les haricots. Et les faillots sont ceux qui s'arrangeaient pour.
Ah oui, ça je connaissais pas cette origine-là. C'est pas étonnant du tout.
Ouais. En quoi ça relève de la légende où on va.
Ça paraît vraisemblable.
Ça paraît.
vraisemblable.
Ce qui malheureusement. Est très vraisemblable, c'est que tout de suite, Arnaud Daguin vous assène son coup de lame.
Le coup de lame d'Arnaud Daguin.
Cuisinière, cuisinier, faillotte, faillot, les haricots. Dès que j'ai eu vent du sujet, j'ai mis les gaz. Mais là, au pied du mur, je me sens flageolé. Bon allez, je m'en jette à l'eau. Aujourd'hui, les enfants, un cours sur le haricot. Le haricot, phaseolus de la famille des Fabaceae, se prononce avec un H aspiré et se cuisine avec un R inspiré. Haricot, pas haricot. On ne fait pas la liaison. Sauf en cuisine où là, la purée de haricot constitue une excellente liaison. Et connaissez-vous les enfants l'allié du haricot ? L'ail ? L'ail, 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 l'ail. Comme nous le rappelle subtilement le grand artiste lyrique Haricot Macias. À la cantine, le temps du haricot a expiré. Et cette expiration m'inspire une profonde tristesse. Le haricot, star déchu des réfectoires, mérite d'y retrouver la gloire. Aspirons à mieux manger à la cantine, remplaçons les nuggets au poulet de la honte et autres raviolis de déchets de mouton par des haricots, mais aussi des gratins de lentilles, des civets de pois chiches, toutes sortes de cassoulets, avec ou sans bestioles. Savez-vous, les enfants, que le haricot et toutes les légumineuses vont sauver le monde ? D'abord parce que leur culture rend les sols plus fertiles, ensuite parce qu'ils sont grands pourvoyeurs de minéraux et de protéines. Il faut que les haricots retrouvent dans nos assiettes et dans nos champs la prépondérance qu'ils y avaient avant que l'on nous fasse croire qu'il était nécessaire de manger chacun une demi-vache par jour, ou presque.
Les faillots à l'école, Arnaud ? Il y a quand même quelques effets collatéraux ?
Certes, mais le pet de haricot est métanier, musical, peu odorant, prime sautier. Alors que la louffe sournoise, issue de trop de viande, est sulfurée et fétide. Le pet de haricot est convivial, alors que celui de la viande est antisocial. Croyez-moi, François Régis, toutes les raisons sont là pour le retour des musiciens dans nos écuelles. Quant à vous, les enfants, pensez bien à aspirer le H, ça détend, c'est hallucinant.
Et c'est légal en plus. Bon, professeur Daguin, en cuisine, s'il vous plaît.
Mais certes, mon petit, un plat de fusion mexicano-béarno-bigouden, aujourd'hui, le chili con carno.
Ah, bravo. Là, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais en tout cas, j'aime.
Haricots tarés au coquillage, ail et piment.
Ah, le chili con carno, génial.
Au fond de la cocotte, l'oignon. L'ail. Et le persil haché fin. On noie ça du vin blanc et on laisse réduire presque à sec. On met là-dessus nos tarbés, on remue pour bien mélanger, on mouille à hauteur, mais pas plus, on remue un peu sur le feu doux et on laisse cuire. Quand les haricots sont presque cuits, on y balance les coquillages, on touille deux fois, on couvre et on met à four moyen un quart d'heure. Le piment d'Espelette ou chili du Mexique, c'est en giboulé et au moment de servir. Allez, cassoulez-vous les uns les autres, n'oubliez pas d'aspirer le hache et vivez plein gaz.
Et vous savez que j'adore ce chili con carno Daguin.
Ben écoutez, je vous remercie.
Non mais franchement, voilà une belle idée. Remplacer notamment la matière carnée par du poisson, enfin qui est aussi une protéine animale. Mais
ou
en
du
tout
coquillage
cas,
qui est tellement sous-employé.
Oui, oui, donc Gilles, c'est en droite ligne, hein, parce que les sardines que j'ai pris venaient de là-bas.
C'est ça. La recette de chili con carno en ligne, évidemment, sur notre site internet franceinter.fr. À la page, on va déguster. Allez, on passe à une autre recette. Avec Gilles Davo, vous nous proposez quoi ?
Alors, moi, je m'empare un peu de ce côté liaison hein, du haricot.
Que absolument.
On vient d'entendre parler. Dès l'instant qu'on va pouvoir avoir des légumes un peu cuisinés, moi j'ai cuisiné un petit peu d'oignons, de carottes, avec un pesto rosso, voilà, juste pour avoir une ambiance un peu tomatée, quoi. Mm-hmm. Et à nouveau, du haricot, et puis une céréale. Hein, alors comme je l'ai fait hier pour qu'on puisse le goûter aujourd'hui, génial. J'ai mis du riz pour que ça reste bien moelleux, donc le riz haricot avec cette petite base tomatée. Et puis également pour que ça reste moelleux, j'y ai mis un peu de fromage et j'ai décidé de baptiser cette recette Mr. Bean Burger.
Waouh, génial. Est-ce qu'on peut, vous pouvez nous les faire passer? On veut goûter ça. Arnaud, vous avez votre part aussi?
J'arrive.
Mr. Bean Burger, elle est bonne celle-là?
Ben ouais, Mr. Bean, c'est... Alors ça, moi je trouve que c'est intéressant parce que quand on parlait des cantines tout de suite, il faut des langages aujourd'hui, même si ce qui domine, c'est les nuggets.
Il faut des signes.
Qu'est-ce que c'est nous, ça?
Et donc, ben voilà.
Ça s'appelle aux enfants.
Ah bah oui, Mr. Bean Burger, on a fait dans des cantines dans différents coins de France. Et c'est vraiment quelque chose, ça rappelle les keftas de lentilles qu'on a dans le Moyen-Orient, les falafels. Au fond, c'est toujours le même concept, c'est de la boulette ou c'est une préparation qui va être cuite au four ou frite en petites portions. Et voilà, pour ceux qui ont besoin d'avoir aussi ces légumes pas forcément en vrac dans l'assiette, ça fait quelque chose qui a une structure, enfin une unité, et ça c'est intéressant.
Mais ce qui est fabuleux, c'est qu'on pourrait penser a priori que ce genre de cuisine, surtout quand il n'y a pas le côté flatteur de la viande, et avec des haricots, ça va être un peu fade. C'est pétant de goût en bouche, c'est relevé, il y a, comme sur la sardinade aux haricots aux mojettes, là en l'occurrence on est sur un truc, bon... qu'adorent les enfants, ça j'en suis sûr. Xavier, vous en pensez quoi?
Alors moi, là où je suis surpris, c'est toujours le côté frais que donne le haricot.
Oui, c'est
jamais sec en fait. Hein, et c'est vraiment, qu'est-ce que c'est agréable. C'est, tout en douceur, quoi, vraiment.
Ouais, c'est ça. C'est très très onctueux et c'est fidèle. Voilà,
c'est comme un exhausteur.
Mais c'est fidèle.
C'est un exhausteur de goût.
C'est un exhausteur de goût.
Parce qu'on a mis, et là, quand on s'était déjà vu, j'avais amené un gâteau au chocolat, au haricot, et c'était très fidèle au chocolat.
Alors oui. Ça, on s'en souvient, je peux vous dire. Et chocolat, haricot en un mot, le haricot tient quel rôle dans ce gâteau au chocolat?
Et la texture, la structure du gâteau.
Et il est censé remplacer...
C'est la farine et le beurre, hein, en un concept unique et très économique.
Il fait à la fois le sec et le gras, ce qui est quand même formidable.
Un petit mot d'un truc de cuisine qui a déjà marqué nos auditeurs il y a quelques années. On va répéter la recette pour les nouveaux venus dans l'émission. On va déguster, c'est la mayonnaise de légumes secs. Alors là, on peut la décliner avec les haricots et c'est très surprenant. Moi, je la fais tout le temps à la maison.
Ah, ça fait partie des grands succès quand je le montre en formation pour les cantines.
Racontez-nous.
Quand on regarde une mayonnaise, on a 90-80%,
mais ce n'est pas la mayonnaise.
Voilà, 90-95% de gras dans une mayonnaise classique. Là, on divise par 4 parce qu'on va mettre 50% de haricots ou d'une autre légumineuse éventuellement qu'on va mixer avec des huiles de qualité. Hein.
Moi, j'associe souvent. N'importe quel haricot peut faire l'affaire.
Oui, n'importe quel haricot, en fait, dès l'instant, ces légumes secs, quand ils sont cuits, si vous voulez, ils s'écrasent en purée onctueuse. C'est des bases de sauce. On peut faire des béchamels de haricots, en y mettant du goût comme on a fait là, simplement en mixant le haricot dans son jus avec une petite préparation aromatique. Et là, c'est un concept plutôt froid. Et quand on y met, un petit peu d'échalote, de moutarde et de vinaigre, ça c'est 25%. L'autre 25%, c'est des bonnes huiles. Oui. Et 50% de haricots, tout ça ensemble.
L'huile de colza,
on
par exemple.
Pas texturé comme une mayonnaise classique, mais on est vraiment dans les usages d'une mayonnaise.
Franchement, il y a une onctuosité que je trouve tout à fait bluffante. Mmh. Et vous pouvez, sans le dire à vos enfants, remplacer la mayonnaise classique quand vous faites, par exemple, je ne sais pas, des club sandwich. Vous tapissez votre pain de mie de cette mayonnaise au haricot sec. Moi, je la fais très régulièrement. Ça peut ressembler un peu au houmous, mais on est un peu plus émulsionné. Elvira, je dis ça pour ça parce que vous nourrissez de votre poids en houmous toutes les semaines.
Effectivement, c'est la base de mon alimentation. Donc voilà.
C'est un houmous à la française.
Dans le houmous, il n'y a pas 50% de gras, quand même.
On n'a jamais fait d'émission sur le pois chiche.
Je le déplore.
Totalement étonnant. Une petite question pour Xavier.
Oui, petite question assez pointue de Patrick Védis qui vous demande, Xavier, si vous connaissez le haricot orteil du prêcheur, très utilisé en permaculture.
Oui, alors déjà, déjà
orteil du prêcheur.
Ouais, j'adore son nom déjà, orteil du prêcheur. Donc c'est, je trouve que les, voilà, il y a des noms de variétés qui sont absolument invraisemblables. Donc à chaque fois, c'est un plaisir d'en profiter. Et orteil du prêcheur, il a une particularité. Alors déjà, c'est qu'il est très bon, et très bon, assez gros haricot, assez gros grain, et surtout, il peut être vivace. Hein, donc je veux dire, parce qu'on ne sait pas toujours, il peut ressortir d'une année sur l'autre si l'hiver n'est pas trop violent. On a quelques haricots comme ça qui peuvent
qui reposent d'une année sur l'autre.
Voilà.
Donc on n'a pas grand chose à faire en fait, si c'est de les ramasser.
Là, oui, et puis surtout qu'en année 2, voire 3 ou 4, ils peuvent être extrêmement productifs et plus gros encore.
J'ai une question, Xavier. En fait, est-ce que beaucoup des espèces qu'on dit annuelles sont annuelles sous nos latitudes, parce que justement, on a les températures qui font qu'elles ne peuvent pas survivre en hiver?
Voilà. En fait, souvent, il faudrait préciser annuelles sous nos climats. Et après, ce qui s'est passé, c'est que nous, par sélection, par exemple, si on prend, des basiliques qui peuvent être parfaitement, qui peuvent être des plantes vivaces, mais nous, par sélection, on va aussi leur faire perdre ce caractère vivace. Et même si on les ramener entre guillemets chez eux, il n'est pas certain qu'ils puissent tenir.
Un petit tour du côté du Sahel avec des musiques qui nous viennent d'Afrique du Nord. Tinari Wen, Sastanakam, et on se retrouve juste après pour d'autres recettes autour des haricots.
Tinari Sastanakam, l'Ektifu Tumidi Wen, l'Etasini Tile Dachakwa, Inayan Warani Sinjayi, Tissana Tabar. سكوز تران دغشنا وان تينيري ساستانا قام يكتفو تمي ديوان لتاسني دلال الشكوى هنا ينورني سنجي بسانا تابا سكوز تران دغشنا وان
Haricots, menu dont on va déguster, nous sommes en direct avec Xavier Mathias, notre poète du légume, qui vient régulièrement nous parler de légumes en général et de légumes oubliés en particulier. Merci d'être là. Gilles Davot, spécialiste de cuisine alternative avec des solutions végétales tout à fait convaincantes. Il y a eu une sardinade à base de haricots secs, il y a également une mayonnaise à base de haricots, toutes vos Recette à retrouver sur notre site franceinter.fr à la page on va déguster. Et là, on se prêtait pendant le disque à un petit jeu. Et ben, c'est Xavier Mathias qui nous a tout simplement apporté des pochettes surprises. Chacun a une petite gousse devant soi, sèche. Et là, quand on ouvre, surprise, oh c'est joli. Ah, c'est carrément des petits pois qui sont marbrés, de couleur un peu taupe, avec des
taupe et aubergine,
avec des zébrures noires.
Ouais, c'est magnifique. Hein.
De quoi s'agit-il?
Alors ça, c'est un haricot allemand qui s'appelle Forellenbone. Alors ça, c'est le côté magique quand même du haricot. C'est
il
que,
est assez rond. Hein.
Voilà. Et alors, c'est ça qui est super drôle, c'est que on l'ouvre et on le découvre.
Non, il vient. Ne mangez pas comme ça.
Non, non,
et on découvre un trésor en fait.
Ouais, c'est ça, vraiment. Ouais, oui. Et donc c'est toujours le côté. C'est comme les pommes de terre, le côté chasse au trésor. Là, il y a aussi un côté chasse au trésor quand même en ouvrant les gousses.
C'est extraordinaire.
Ah, oui, oui.
Parce qu'en général, question totalement néophyte, lorsque l'on fait sécher des haricots, on les laisse d'abord dans leur gousse et l'écossage se fait une fois que la gousse est sèche ou dès le départ. Ils ont vocation à sécher dans leur enveloppe.
Voilà, alors c'est ça qui est génial avec les haricots. C'est pour ça qu'ils étaient cultivés aussi à ce point-là. C'est qu'on les suspend en botte quand on les récolte, à l'abri de l'humidité, mais dehors, au gel, etc. On s'en moque. L'essentiel de les suspendre, c'est aussi pour éviter que les rongeurs aillent dedans. Et puis voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire pour après l'associer avec une céréale.
Petite précision fort intéressante, petite anecdote sémantique de Gilles Davaux.
Bah oui, en fait, là, on a ouvert et on a vu des trésors vraiment bariolés. Et la notion de cossu, d'un lieu riche, d'un lieu,
une maison cossue.
On est vraiment là-dedans, quoi. Hein, ces petits.
Une maison cossue, c'est une maison pleine et riche, c'est ça?
Pleine et riche.
Voilà. Cosse.
Comme la gousse d'un haricot. Ouais. Formidable. Ouais. Elle vira des questions, hein.
Un message personnel qui vous est destiné, Xavier. De Benoît Bardin, je donne des graines d'une variété rare à sauver. Si vous êtes intéressé, il s'agit du haricot Saint-Sacrement, haricot blanc avec taches rouges en forme de cœur rouge, d'où son nom.
Ah oui, je suis plus qu'intéressé, oui. Oui, ah oui, vraiment.
Ah là, c'est même une super nouvelle pour vous.
Oui, voilà, parce que le haricot Saint-Sacrement, on sait qu'il y en a quelques souches qui sont disponibles. Néanmoins, c'est toujours pareil, il y a ce qu'on appelle une érosion, une dépression génétique au bout d'un moment. C'est-à-dire que si on n'a pas un maximum de souches différentes, on se retrouve avec des individus. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des populations, en fait. Donc, plus on a d'individus qui arrivent de partout, et mieux c'est. Donc oui, ça m'intéresse vraiment beaucoup.
Oui, Elvira.
Et cette fois, un message qui va vous faire plaisir, Gilles, de Nesby, d'origine vendéenne. Je connais depuis mon enfance la fameuse tartine de pain grillé que l'on beurre.
Génial.
Et sur laquelle on écrase des mojettes.
Vous connaissez?
Bah oui, le pot de mojettes, il est resté toute la journée, enfin dans le temps, hein, toute la journée sur le coin de la cuisinière ou du feu. Et puis, l'écolier qui rentre le soir, c'est tartiner
les mojettes carré de chocolat,
sur
vous.
Le pain grillé. Et ça, c'est vraiment le plat du pauvre. Et protéique, parce que le blé et le haricot, on est vraiment dans l'association céréale légumineuse.
C'est un plat de pauvre très riche. Hein,
oui, c'est ça. Absolument. Quelques autres questions, toujours sur le mail ou sur Twitter, le mail dont on va déguster à radiofrance.com. Quand on prend ce genre de petites graines que l'on a sorties d'une gousse et qu'on la met en terre, est-ce qu'on a des chances de récolter des haricots quelques mois plus tard?
Ah, mais heureusement. Oui. Donc, oui,
non, je dis ça parce qu'il peut y avoir des légumes secs traités aussi.
Voilà, c'est ça. Donc, là, par contre, je crois que vraiment, enfin, là, je vais prêcher pour ma paroisse, mais effectivement, pour tout ce qui est grain comme ça, le bio est quand même nettement préférable. Et puis, c'est ça aussi, il vous apporte. Ce sont des graines, ce sont des réserves déshydratées. Si vous la réhydratez en terre, elle redémarre. Voilà. Donc, il y a aussi ce côté.
Elle a tout son pouvoir germinatif en elle.
Ah oui, c'est aussi pour ça que c'est aussi bon pour nous.
Vous oubliez le haricot cornille, nous dit Pascal, avec son œil noir, le fameux Black Eye Pea. Quelle serait son origine?
Alors, déjà, des haricots, j'en oublie forcément beaucoup.
Voilà, vous allez frustrer beaucoup de monde.
C'est ça que j'aime, d'ailleurs, avec ce genre et ces espèces. Les cornilles, en fait, c'est ce qu'on va
Black
retrouver.
Black Eye Pea, hein.
Oui, voilà, mais ce qu'on peut retrouver, ça demande plus de chaleur. En fait, c'est des vignas, ce ne sont pas des phaséolus. Hein.
D'accord,
et on va les retrouver en Afrique, c'est le niébé, en fait, le niébé africain, qui est très développé aussi aux États-Unis. Et donc, c'est lui qu'on va retrouver aussi. On parlait tout à l'heure des trois sœurs ou du milpa, mais on va le retrouver aussi au Mali, hein, au pays d'Ogon. Ils font cette association courge, céréales et niébé.
Et ben voilà.
Voilà. Et donc, cette espèce de bon sens qu'il y avait partout, heureusement, alors c'est un peu loin de chez nous, faudrait qu'on y revienne un peu quand même, mais on le retrouve malgré tout.
La collaboration, l'entraide, la solidarité entre les plantes dans un champ.
Ouais, ça se traduit aujourd'hui par les métayes et les couverts permanents hein, dans de l'agroforesterie. On est vraiment dans cette association du vivant qui seul peut nous sortir du merdier actuel.
On est bien d'accord, vive l'agroécologie. Un autre haricot au menu dont on va déguster, c'est une surprise d'Elvira.
Mettez le couvert, on va déguster sur France Inter.
Adukeni taro.
Anukeni Taro. Alors bon, les Japonais vont se moquer de moi, mais je crois que ça veut dire, dans un célèbre film qu'on a beaucoup aimé, parler à vos haricots, c'est ça ?
Parler, les observer, les regarder danser, parce que c'est assez délicat. C'était un extrait des Délices de Tokyo.
Oh là là, ouais.
Effectivement, un magnifique film de Naomi Kawase, dont on avait parlé ici il y a quelques temps, qui est
disponible en DVD. Quelqu'un l'a vu autour de ce plateau ? Vous l'avez vu, Gilles ?
Magnifique. Hein.
Magnifique, c'est vraiment... On parle souvent de la sensorialité dans l'alimentation. Ah, ouais. On sent, on touche, on regarde, et là, en plus, il y a une petite grand-mère qui nous apprend, qui apprend aux jeunes cuisiniers à écouter les haricots qui bouillonnent avec le sucre.
Et ce film traduit tout le pouvoir évocatif de l'alimentation.
Exactement. Oui, il est question en effet la délicate, parce qu'elle est très délicate, cette préparation des azuki, donc ces fameux petits haricots rouges de la variété Vigna angularis.
Ah, c'est pas un phaseolus.
Non. Dont raffolent les Japonais, notamment en pâtisserie, où ils font merveille, transformés en pâte sucrée, avec leur petit goût de châtaigne, de crème de marron, si on doit rapporter ça à quelque chose qu'on connaît déjà bien. Ils entrent notamment dans la composition des dorayaki, les pancakes, enfin pancakes, là je pousse un peu, les pancakes japonais dont il est question dans le film. Je vous en ai apporté. Oui. Allez-y, servez-vous. Hein.
Non, là je me contentais de les distribuer.
En fait, c'est plus qu'un pancake, c'est un sandwich de pancake.
Goûtez ça, s'il vous plaît. Décrivez-nous ça. C'est un hamburger de pancake.
C'est ça. C'est un hamburger de pancake à l'intérieur duquel on trouve cette pâte de azuki. Donc, on n'est pas dans une gelée. Hein. Il reste des morceaux. Il y a de la mâche. Et c'est comme un petit... Voilà, c'est une double couche de coussin d'air.
Gilles, un petit commentaire.
Ah, moi, je suis très ému de goûter ce que j'ai vu dans ce film.
Voilà.
C'est la première fois.
Et je peux vous dire que c'est une très belle adresse à Paris.
Oui, ils viennent de chez Tomo.
On retrouve effectivement ce côté châtaigne. Mm-hmm.
Mais c'est plus complexe que la châtaigne. Ça part de là, mais c'est un peu différent. Mm-hmm. Ceux-ci viennent de chez Tomo, une pâtisserie japonaise, enfin franco-japonaise, qui a ouvert ses portes il y a quelques mois à Paris, rue Chabanais, dans le 2e arrondissement. Où vraiment les dorayaki sont préparés minute par le chef pâtissier qui a son petit sa petite plaque et voilà
cette
il passe
chauffante.
À jour exactement
vous m'avez montré une vidéo ce matin qui était très émouvante et la précision du geste vous pouvez y aller avec vos enfants vous le regardez faire en train de faire couler avec un entonnoir sa pâte sur une plaque chauffante vraiment brûlante le pancake qui prend vie les petites bulles qui apparaissent à la surface de cette galette c'est vraiment incroyable
et le azuki entre également dans la composition des wagashi c'est le nom un peu générique qu'on donne aux pâtisseries très délicates, dont font partie les mochi notamment, que je vous ai également apporté. Celui-ci est à la farine de fougère et aux haricots rouges.
On fait passer ça Arnaud, il va nous faire un petit commentaire.
Oui.
Sur la farine de fougère.
Oui.
C'est intéressant, hein. C'est joli
voir.
En plus.
Et la texture.
Il faut dire à quel point c'est délicat et joli à l'œil aussi.
Ah
oui,
c'est vraiment très beau. Et puis il y a une dimension, une espèce de naturalité qui se dégage.
Oula.
Ah oui, effectivement, c'est un petit peu élastique.
Parce que outre la farine de fougère et le cœur de haricot rouge, c'est également la farine de riz.
Alors,
c'est forcément très élastique.
Totalement déroutant.
C'est incroyable.
Ouais, c'est
mais c'est bon, non ? Non, il n'a pas l'air...
Faut que je m'y fasse.
Il se trouve, curiosité, que les azuki utilisés par cette pâtisserie Tomo ne viennent pas du Japon, comme on pourrait l'imaginer, ni de Chine ou de Thaïlande, qui sont les principaux pays producteurs et producteurs d'un genre plutôt intensif, mais du... Tarn-et-Garonne.
Ah, la bonne nouvelle. Voilà.
Ou une petite entreprise.
Culture française.
Exactement. Castelsarrasin a entrepris avec succès de produire un azuki made in France. On le trouve également à son aise en Alsace. C'est plus étonnant. Alors, c'est encore un peu au stade de l'expérimentation, où il est notamment cultivé par la ferme Pulvermühl à Wolgelsheim, à la frontière franco-allemande. C'est une famille qui cultive en bio depuis des années des céréales, de la luzerne, des légumes, des fruits. Et qui s'est mise à cultiver le azuki avec succès, qui en a produit 200 kilos l'automne dernier, donc c'est encore une petite production. Mmh. Et cette ferme fournit notamment une adresse monomaniaque consacrée au azuki, qui a ouvert au cœur de Colmar. Alors, je ne sais pas pour quelle raison l'Est de la France est pris de passion pour le azuki.
C'est dingue. Ouais. Alors qu'a priori, vous nous disiez qu'il n'y avait pas tellement de raisons climatiques pour que le azuki s'acclimate au nord-est de la France. Ce serait plutôt sudiste comme culture.
A priori, on aurait une idée plutôt de chaleur, mais néanmoins, si on est continental et que la Terre est plutôt plus continentale, on a des étés chauds et c'est des cycles qui sont quand même relativement rapides. Hein. C'est des semis qui ont lieu en général au mois de mai, avec des récoltes en mois de septembre. Donc, on est quand même dans cette logique de cycle où si on a des étés chauds, c'est bon, ça passe.
Il a l'air de bien se porter, hein, comme quoi.
J'ai l'impression.
Azuki.
Alors, on nous dit que pas de trempage préalable n'est requis. En revanche, qu'est-ce que la préparation a l'air un peu fastidieuse et longue, non ?
Ah, là, Gilles Davos sourit.
Alors, en fait, moi, je trouve que c'est un peu comme les lentilles vertes. Hein, c'est-à-dire que ça peut se passer de trempage, mais ce sera toujours plus facile et plus prêt à cuire dès l'instant que ça a trempé, ne serait-ce qu'une heure ou deux. Après, sur le azuki cuit, donc ça va cuire en partant à feu doux. Ça peut cuire directement, comme ça, sans trempage. Ça pourrait cuire sans trempage, à peu près en trois quarts d'heure, en effet. Mais je pense qu'il y a aussi des nuances suivant que le azuki soit de la récolte de l'année, ou qu'il ait plus de stockage, parce que quelquefois, on a des difficultés à le cuire.
Vous savez que chez Tomo, le azuki cuit pendant une journée entière, bouillon différent, avec rinçage. Alors, c'est peut-être aussi pour respecter la lettre japonaise qui doit être particulièrement pointilleuse.
C'est jamais sans raison. Hein. Quand c'est on a des usages comme ça, c'est toujours dans le but de quelque chose. Je pense que l'humain, c'est pas emmerder la vie pour rien, en cuisine notamment. Et c'est vrai que quand on fait ce genre de trempage, c'est comme quand on traite les zestes d'agrumes, par exemple. C'est pour peut-être les débarrasser de quelques trucs, leur faire rentrer d'autres. Enfin, on est sur l'élaboration d'un produit complexe.
Chez les fabacées, excuse-moi, j'interromps, mais surtout chez les fabacées où il y en a quand même pour de nombreuses, il est conseillé de faire tremper et de jeter l'eau de trempage. Hein. Ouais. Donc c'est exactement ce que vous dites.
On s'aventure pas. Ça va, Lira ?
Non, allez-y. Je peux plus s'aventurer. Là. J'ai la bouche pleine, je peux plus rien dire.
On ne s'aventure pas, on est d'accord, à faire de la pâte de haricot azuki à la japonaise à la maison. C'est un processus trop complexe.
Mais pourquoi ne pas faire de la pâte de haricot maïs, par exemple, à la maison ? C'est pas si complexe que ça. Après deux heures de trempage, on peut vraiment les peler à coups de pince.
Bien, ça tombe bien.
Voilà. Ça tombe bien. Il y a une recette, on va passer au sucré, justement, pour montrer. La semaine dernière, dans le cadre d'une émission sur la Chine, on avait, et c'est notamment une spécialité de Canton et de Hong Kong, les soupes sucrées, et notamment les soupes de haricots rouges sucrées. D'ailleurs, petite parenthèse, je suis allé faire un tour dans le magasin bio, je ne citerai pas le nom, mais qui est en bas de chez moi, dans le 9e arrondissement. Haricots, azuki, made in France, ça existe en bio désormais, c'est une bonne nouvelle. C'est encore une minorité, hein, ces haricots qui sont cultivés en France par rapport à tous ceux qu'on consomme et qui viennent de l'étranger, Gilles Davos.
C'est le chiffre aujourd'hui qu'on connaît sur les légumes secs. C'est non seulement on en mange beaucoup, beaucoup moins que les siècles passés, hein, on est plus à moins de 2 kilos par an par habitant, et là-dessus, 80% importé. Donc, écoutez Xavier nous parler un petit peu de la richesse agronomique qui a
vous encouragez, Xavier, les cultivateurs, évidemment, les agriculteurs, à se remettre aux haricots
À faire preuve de bon sens, beaucoup plus simplement, juste revenir au bon sens. Voilà, la diversité, c'est souvent du bon sens, en fait.
On a une minute pour évoquer une recette. Je vois qu'on est mojetto-centré, quand même, aujourd'hui.
Parce que je suis venu de ma Vendée, là. et puis, du coup, sur le trio, après les sardines et le bean burger, là, c'est un fondant sucré, c'est-à-dire c'est l'idée de la purée sucrée, mais cette fois avec des mojettes. Et puis, avec un petit zeste de citron, de l'œuf jaune et blanc en neige. Et puis, on va avoir un petit peu de zeste de citron. Et on a toujours la légèreté.
Donnez-nous un peu le détail de la recette.
Il y a un petit côté génoise.
La recette, c'est de faire cette purée sucrée avec à peu près 60 à 70% de haricots pour 30 à 40% de sucre. De haricots déjà cuits. Hein. On va fusionner ça avec un petit pointe de rhum et de vanille. Et puis, là-dedans, des jaunes d'œufs, du zeste de citron, un petit peu de beurre, mais on a besoin de très peu de beurre parce que le moelleux est assuré par le haricot lui-même. On
n'a
pas de farine.
Génoise, ouais.
Juste un peu de maïzena pour finir la texture et que le gâteau soit pas trop humide. Et puis voilà, les blancs en neige et c'est fini. Et ça se cuit très très vite.
Un peu une génoise, mais quand vous commencez à mâcher, ça a quand même un côté fondant extrêmement bon.
C'est le pain de gêne idéal.
Mais c'est vanillé ou pas vanillé?
Il y a un petit peu de vanille et zeste de citron.
C'est absolument étonnant, non?
C'est génial. Et surtout... C'est, ça, ça nous change de l'idée qu'on se fait du haricot sec, lourd, roboratif, etc. Matière. Là, c'est tout voilà. Le contraire.
C'est une matière culinaire. C'est un truc qu'il faut, il faut qu'on sorte du cliché du haricot avec sa charcuterie et ça, pour se dire, mais au fond, on a une matière
c'est
incroyable.
Une ressource formidable.
Et de manière générale, je crois savoir, Gilles, que vous êtes assez favorable au haricot sec. Cuit, réduit en purée, notamment pour son assimilation, pour sa digestion.
Voilà, dans un deuxième temps, on fera des préparations avec des haricots entiers quand c'est redevenu familier.
Mais
dans le premier temps, le fait de mixer les haricots va faciliter leur digestion. Hein. J'étais pas longtemps avec une diététicienne qui confirmait ça. On est, voilà, on va. C'est comme tous les aliments riches en fibres qui peuvent faire ballonner, en manger un petit peu de temps en temps,
c'est ça.
Régulièrement.
Et buvez tannique.
Et buvez tannique. Absolument. Ben, oui. Ben, merci beaucoup à tous. Pour cette passionnante émission sur le haricot. Merci à tous les deux, Xavier Mathias. Je rappelle le titre de votre dernière encyclopédie qui vient de sortir, Le temps du potager, de la culture bio à la permaculture. Ça se passe chez Flammarion et c'est un très chouette livre. Gilles Davot, consultant, formateur en cuisine alternative. Je vous laisse rappeler l'adresse de votre site internet.
gilesdavot.com.
Parfait. Au revoir à tous. Merci beaucoup, Elvira.
Bon dimanche
merci
à tous.
Merci, Xavier. Merci, Gilles.
Merci, au revoir.
Merci, Arnaud.
Merci à vous.
À dimanche prochain, si vous avez encore faim.